Je vous avoue que dans cette période délicate, je suis bien déboussolé. Et le privilège de nous chrétiens, c'est que on peut s'encourager, comme par les témoignages, et on a eu un merveilleux et un très très édifiant témoignage ce matin d'Anne-Laure Hédineau. Et ça, c'est notre privilège en tant que chrétien de s'encourager que Dieu agit encore aujourd'hui et que Dieu peut agir encore aujourd'hui maintenant. Et puis on a un deuxième privilège, c'est qu'on peut se pencher sur la Bible et regarder ce qu'elle a à nous dire dans une situation similaire. Alors le but n'est pas de copier-coller, mais plutôt de comprendre les principes que Dieu a prévus afin de pouvoir les vivre dans ma vie, mon contexte, ma situation, plusieurs milliers d'années après. Ainsi, je vous propose ce matin de prendre ensemble le proverbe 30. Et alors, les proverbes sont une mine de conseils, de réflexions et puis de regard vers Dieu. Et c'est ce que je vous propose qu'on fasse ensemble ce matin. Mais avant la lecture, j'aimerais qu'on se penche ensemble sur l'auteur. Alors, si je vous pose la question de l'auteur des proverbes, vous allez me dire Salomon, et vous aurez en partie raison, mais là, il y a un piège, puisque cet avant-dernier proverbe, pardon, est écrit par Agur. Agur, c'est un homme âgé, non juif. On pense qu'il était ismaélite, donc il ne faisait pas partie du peuple juif. Donc, il est âgé. On devine fatigué à la fin de sa vie et qui va donner des conseils à ses jeunes disciples, Ithiel et Oukal. Il commence dans la première partie des versets 1 à 9 sur lesquels on va s'arrêter ce matin, par reconnaître qu'il ne comprend pas grand-chose à la création et à ce qui l'entoure, qu'il a aussi la volonté de ne pas modifier le message de Dieu. Et c'est ce que nous aussi, chrétiens, nous avons besoin de faire pour vivre selon la réelle volonté de Dieu et non la nôtre. Alors nous ne sommes pas à l'article de la mort, comme l'était Agur, mais peut-être que certains d'entre nous peuvent être fatigués, hélas, à cause de cette période de pandémie qui dure et dure encore. Et nous avons été confinés, puis déconfinés, puis reconfinés. Peut-être bientôt redéconfiné partiellement, dans le questionnement. Peut-être aujourd'hui aussi, on peut être dans la révolte, dans la lassitude, peut-être dans la crainte pour nous ou nos proches. En tout cas, dépassé par cette situation. Et le proverbe 30 nous parle d'un homme usé, mais qui veut être fidèle à Dieu devant des situations et des faits qui le dépassent. Alors, je vous propose qu'on puisse lire. Proverbe 30, parole d'Agur, fils de Jakhé, sentence prononcée par cet homme pour Ithiel et pour Oukal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. On arrêtera la lecture ici. Et je vous propose qu'on puisse prendre ce texte et qu'on puisse regarder déjà le plan, tout simplement. Et on voit que le plan de ce texte est très instructif. On voit des versets 1 à 4 que Agur nous appelle à l'humilité. Et pour deux raisons. Premièrement, à cause du cœur de l'homme, car il est orgueilleux, et aussi à cause de qui est Dieu. Des versets 5 à 6, on voit que Agur nous appelle à la foi en Dieu et en sa parole. Et au verset 7 à 9, on voit que Agur nous invite, et en tout cas c'est ce qu'il fait, à prier. Alors je vous propose ce matin tout simplement de dérouler notre texte selon ce plan et d'en tirer quelques applications pour nos vies. Alors la première partie de notre texte où nous sommes invités à l'humilité. Appel à l'humilité à cause du cœur de l'homme. C'est assez remarquable de constater la manière dont se considère Agur, car naturellement, le cœur de l'homme est orgueilleux. D'autres prophètes ont eu tout un cheminement pour en arriver à l'humilité. On voit par exemple Asaph qui se tourmente au psaume 73 et qui de prime abord arrivait puisqu'il portait envie aux insensés. Et on voit dans ce psaume 73 qui défile par quel chemin il a dû passer pour en arriver à l'humilité. Et après beaucoup de turpitude, il est dit qu'il est entré dans les sanctuaires de Dieu et placé dans la lumière de sa présence, il a pu reconnaître au verset 22 du psaume 73, J'étais stupide et sans intelligence. Ainsi, l'humilité n'est pas naturelle pour l'homme. C'est quelque chose que Dieu a besoin de travailler dans nos cœurs. L'humilité n'est pas naturelle. Alors que l'orgueil est quelque chose de sournois et subtil qui se cache même dans nos bonnes actions. La définition de l'orgueil, c'est que l'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est tellement sournois, et notre cœur est tellement sournois, que même dans la modestie, même la modestie peut être biaisée. J'ai lu cette citation du premier prix Nobel de littérature de l'histoire, Sully Prudhomme, qui a dit « La fausse modestie consiste à se mettre sur le même rang que les autres pour mieux montrer qu'on les dépasse. » Je répète, la fausse modestie consiste à se mettre sur le même rang que les autres pour mieux montrer qu'on les dépasse. Et là encore, c'est l'orgueil qui est aux manettes. Spurgeon, ayant amené à la fois des milliers de personnes, confesse qu'il était sujet à l'orgueil. Deux citations de Charles Spurgeon. L'orgueil est mon péché chéri, je ne parviens pas à m'en débarrasser. Spurgeon a dit aussi, ce démon d'orgueil est né avec nous. Et il ne mourra pas même une heure avant nous. Je ne sais pas comment votre cœur est. Je confesse en tout cas que la tendance naturelle du mien va à l'orgueil. Alors comment garder son cœur de l'orgueil qui est sournois et qui se glisse partout? Comment en tant que chrétien, l'orgueil arrive encore à me diriger. Essayons de comprendre le mécanisme. Le plus grand problème est que dans l'orgueil, j'oublie que je suis un pécheur gracié et je commence à me nourrir d'une satisfaction personnelle qui va gonfler mon cœur orgueilleux, en pensant que ce que je deviens, ou même ce que je fais de bien, je ne le dois qu'à mon mérite et à mes propres forces. Ainsi, le fait que Dieu m'a béni dans sa grâce, que Dieu m'a gracié alors que je méritais sa colère, s'efface petit à petit comme une vieille chanson dont j'aurais oublié les paroles. Et cela commence à me rendre exigeant envers moi et envers les autres. Par contre, quand je me souviens de la grâce que Dieu m'a faite et dans laquelle je peux puiser jour après jour, je reste humble, je reste reconnaissant et doux, et je deviens un outil de grâce dans ses mains. Spurgeon disait, l'orgueil ne peut pas survivre sous la croix. L'orgueil ne peut pas survivre sous la croix. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pour finir sur cette première partie, on ne voit pas par quel chemin Agur est passé pour en arriver là. Peut-être le fait de son origine ismaélite qui lui rappelait chaque jour la grâce dont il était l'objet de connaître le Dieu d'Israël. En tout cas, Agur ne se considère pas comme sage. Bien au contraire, il confesse son ignorance et son incompétence, et c'est ce que nous sommes appelés à faire jour après jour, dès que notre orgueil se regonfle. Alors la deuxième partie de cet appel à l'humilité, c'est que nous sommes appelés à l'humilité à cause de Dieu. Et on voit 8 questions qui se succèdent. Qui, etc., etc. Ces questions nous renvoient à d'autres passages de l'Écriture. On a parlé de Job ce matin qui effectivement est dans un questionnement du même type. On a aussi Ésaïe et on va lire le verset 12 du chapitre 40. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble de ces questions qui sont des questions qui sont très intéressantes aussi au niveau scientifique. Mais simplement, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que ces questions soulignent nos limites. Ces questions soulignent les limites humaines. On peut peut-être essayer d'effleurer la compréhension de comment ces mécanismes fonctionnent, mais on n'est en aucun cas en mesure de les reproduire. Ces questions soulignent aussi la précision, et c'est assez intéressant, mais soulignent la précision avec laquelle Agur connaît Dieu. L'intimité qu'a Agur dans sa connaissance de Dieu, dans sa connaissance de qui il est et de ce qu'il a réalisé. Agur sait même qu'il a un fils. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs. Je ne sais pas quelles sont les questions de vos cœurs actuellement, mais à cette liste de questions posées par Agur, j'aimerais ajouter des questions peut-être qui nous concernent. Qui connaît la longueur de la vie? Qui connaît l'origine du Covid? Qui connaît les bonnes décisions à prendre pour le Covid? Que va-t-il se passer pour mon travail? Qu'en est-il de mes projets de voyage? Jusqu'à quand serons-nous confinés? Jusqu'à quand les locaux de l'Église seront fermés? Etc., etc. Toutes ces questions qui me renvoient actuellement à ma faiblesse, à ma petitesse, battent en brèche mon ego, car me contraignent et modifient la manière dont je souhaite vivre ma vie. En fait, elles me renvoient quelque part à mon besoin de Dieu pour vivre ces choses, même si je ne les comprends pas. C'est ce qu'Agur a conclu, que sa petitesse le renvoyait à son besoin de Dieu, son besoin de se confier en la protection de celui qui a la réponse à ses questions et celui qui saura le protéger. Je reviens simplement et j'ouvre une parenthèse sur cette allusion au Fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Question ô combien surprenante pour les Juifs de l'époque. Et ce verset nous renvoie au Dieu trinitaire. Au nous de Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Ainsi, le Dieu qui a la réponse aux questions d'Agur, c'est le Dieu de la Bible. C'est ce Dieu trinitaire et c'est ce Fils qui est venu nous délivrer, entre autres, de notre orgueil et de notre péché. Alors, comme Agur le propose dans ce texte, je vous propose maintenant qu'on regarde le Dieu en qui on peut avoir confiance. Et donc cet appel à la foi, et c'est la deuxième partie de notre texte, et je vais relire les versets 5 et 6. « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. » Agur fait donc le choix de s'accrocher à Dieu. Et nous pouvons faire aussi ce choix dans les questions qu'on a peut-être aujourd'hui et qui nous dépassent. Le choix de s'accrocher au Seigneur, c'est aussi le choix d'accepter de quitter mes habits d'orgueil pour accepter mon besoin de Dieu et d'être revêtu par sa grâce seule. Et Agur nous propose, nous justifie cette position pour deux raisons. Il y en a bien plus, on le sait, mais en tout cas, là, il aborde deux raisons. La première raison, il parle de la parole de Dieu. Il dit que la parole de Dieu est épurée. Alors, on n'utilise pas tous les jours le terme épuré, n'est-ce pas? Mais on devine son sens. Son sens, c'est rendre pur, comme rendre pur un métal précieux. Au verset 7 du psaume 12, il est écrit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre et sept fois épuré. » Sept fois le chiffre de la perfection, c'est-à-dire que la parole est épurée parfaitement. Il n'y a pas d'impureté. La parole de Dieu est sans erreur. Et là, Agur nous parle de la doctrine de l'inhérence et de l'infaillibilité de la Bible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'erreur. Elle est donc digne de confiance, digne d'être crue dans son ensemble et également dans chacun de ses détails. La parole de Dieu n'a pas d'approximation. C'est elle qui peut et qui doit avoir autorité sur ma vie. Parce que chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Dans un monde de fake news, ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas avoir à être sur ses gardes sur la véracité d'un message. Et c'est ce qu'on peut trouver dans la Bible. Au verset 6, Agur nous invite à ne rien ajouter. Et là aussi, on a besoin d'humilité face à la parole. C'est elle qui a raison. C'est elle qui a autorité sur ma vie et ce n'est pas moi qui l'arrange à ma sauce. Nous devons être humbles vis-à-vis de la parole et donc de la volonté de Dieu sur ma vie. La deuxième raison pour laquelle Agur nous invite à avoir foi en Dieu et à nous tourner vers Dieu, c'est que Dieu est un bouclier pour ceux qui le cherchent. Si Dieu est un bouclier, c'est-à-dire que si on lui demande, il se met entre le danger et nous. Il se met en bouclier. Alors ce matin, ça nous a été rappelé par Nasser dans le psaume 91 et aussi par le témoignage d'Anne-Laure et d'Ino que la vie chrétienne, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de danger. Mais cela veut dire que nous pouvons les traverser sous sa protection. La dernière chose sur laquelle je me suis interrogé, c'est que Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Est-ce que parfois je n'oublie pas de demander à Dieu d'être mon bouclier? et je préfère me plaindre. Quel encouragement à demander à Dieu de se placer entre nous et entre le danger, entre nous et notre situation, entre nous et nos questions, entre nous et ce voisin, ce collègue de travail, et qu'il puisse nous protéger et continuer de nous faire avancer dans sa grâce. Alors la troisième partie est quelque part, une fois que Agur s'est tourné vers Dieu, vers Dieu qui, dont la parole est pure, dont la parole est digne de confiance, dans le refuge qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il se met à prier. Et c'est ce que nous pouvons faire chacun d'entre nous, c'est prier ce Dieu qui est un refuge. Je vais relire les versets 7 à 9. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Agur prie pour ses faiblesses spirituelles et matérielles. Agur n'était pas parfait, mais Agur prie et demande secours pour son cœur qu'il sait enclin à la fausseté et au mensonge. Il demande aussi l'équilibre matériel, car le manque et l'opulence sont des pièges. Quelle lucidité sur son cœur, sur ses points faibles. Quels sont mes points faibles? Quels sont tes points faibles? Est-ce que je prie pour? Est-ce que je demande à quelqu'un de prier avec moi pour? Voilà des beaux encouragements aussi que nous puissions nous battre et remettre à Dieu nos points faibles pour qu'il puisse nous garder dans sa main. Au verset 7, Agur dit « Ne me les refuse pas ». Et j'ai été un peu surpris par cette demande, en fait, ou par cette expression d'Agur. Mais Agur peut dire cela, car Agur prie une prière juste, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu. Agur prie en étant basé sur une juste compréhension de qui il est, de comment est son cœur, et de qui est Dieu, et de comment est le cœur de Dieu. Agur prie en étant clair par rapport à qui il est, comment est son cœur, et comment Dieu, et comment est le cœur aimant de Dieu. Alors ce matin, maintenant qu'on a regardé ce texte, j'aimerais qu'on regarde simplement et qu'on retienne le mécanisme de ce texte. Et je trouve ce texte donc d'une lucidité et d'une pertinence remarquable sur le mécanisme du cœur de l'homme, sur son besoin de Dieu et sur le secours que Dieu est et peut être dans une vie d'humilité où il peut agir. Alors s'il y a trois mots que j'aimerais qu'on retienne ce matin, ça serait humilité, foi, prière. Et en fait, on voit que, et je suppose et je devine que Agur a pu rester dans l'humilité parce qu'il pratiquait régulièrement et il pratiquait en continu cela. C'est-à-dire qu'il avait l'humilité, et chaque chrétien peut avoir l'humilité quand on se rend compte qu'on a été gracié. Et quand on est gracié, on se tourne vers le Dieu qui nous a graciés. Et donc, on peut avoir foi en lui et en sa parole et en sa grâce. Et cela nous tourne vers lui. Et donc, nous avons le désir de lui remettre tout ce qui est lourd pour ne pas tomber et pour rester proche de lui. Et ça nous ramène à l'humilité. Humilité, foi, prière. Humilité, foi, prière. Alors, pour nous ce matin, quelques rapides applications. La première, c'est chercher l'humilité du cœur en confessant notre orgueil. Spurgeon disait, Dieu ne nous remplira pas avant que nous nous vidions de nous-mêmes. Dieu ne nous remplira pas avant que nous nous vidions de nous-mêmes. Chercher l'humilité du cœur en confessant notre orgueil. Deuxièmement, chercher notre refuge dans la parole de Dieu et la protection de sa grâce. Chercher notre refuge dans la parole de Dieu et la protection de sa grâce. Troisièmement, chercher notre équilibre dans ce que sa main nous donne. Quatrièmement, et dernière application, cultiver l'humilité en réalisant que chaque matin, j'ai besoin d'être rempli de la grâce de Dieu. Cultiver l'humilité en réalisant que chaque matin, j'ai besoin d'être rempli de la grâce de Dieu. Paul Tripp a dit ou écrit, Je ne suis pas diplômé de la grâce. Je ne suis pas diplômé de la grâce. Ce qui peut donc me garder dans l'humilité, c'est de réaliser que je ne dépasserai jamais mon besoin de grâce. Et c'est pourquoi tous les jours, j'ai besoin que Dieu remplisse mon vide intérieur d'amour et de reconnaissance. Pour finir, j'aimerais vous raconter une histoire. Le premier ministre d'un grand roi, craignant d'oublier son humble origine et redoutant de s'enfler d'orgueil, avait caché ses vieux vêtements dans un coffre qu'il ouvrait en secret le matin et le soir. Les mauvaises langues rapportèrent au grand roi que le premier ministre abusait des faveurs royales et qu'il le trahissait, s'appropriant une partie du trésor. Le grand roi se laissa influencer par ces propos malveillants et ordonna qu'on ouvrît le coffre en question. Ne trouvant que des vêtements en lambeaux, il convoqua son premier ministre pour demander l'explication. C'est, répondit-il au roi, pour ne pas oublier mon humble origine et les faveurs de votre majesté. Je répète, c'est pour ne pas oublier mon humble origine et les faveurs de votre majesté, sans lesquels je ne serais pas ce que je suis. Profondément touché, le roi aima plus que jamais l'humilité de son ministre et lui accorda plus de confiance et de pouvoir, ce qui l'éleva aux yeux de tous. Puisons chaque jour dans le coffre de la grâce, duquel Jésus-Christ nous a donné la clé pour nous remplir. N'oublions pas notre origine de pécheur et les faveurs de notre Dieu. Et rappelons-nous le mécanisme que nous a laissé Agur pour rester proche de Dieu. Humilité, foi, prière. Je vous invite à la prière.